OK, on va commencer notre deuxième leçon dans notre série sur la sanctification. On va regarder ce soir l'impérative nécessité de comprendre la terrible culpabilité du péché. Quand on regarde la sanctification comme doctrine, bien sûr qu'il faut situer le péché par rapport à ça, bien entendu. Alors, si on a une connaissance correcte et biblique du péché, ça va vraiment constituer la base d'une compréhension vraie du christianisme. Alors, les notions de conversion, de justification et de sanctification dépendent un peu de notre compréhension de ce que c'est le péché. Autrement dit, si on n'a pas une compréhension correcte du péché et biblique, tous ces mots-là, justification, conversion et sanctification, peuvent être des mots qui sont vides de sens. Alors, la première chose que Dieu fait lorsqu'il attire des pécheurs à lui est de provoquer chez eux une conscientisation interne qu'ils sont des pécheurs coupables, perdus et condamnés à la vie éternelle. N'est-ce pas que c'est ça qui nous est arrivé quand le Seigneur est venu nous chercher? Il nous ouvre les yeux par le Saint-Esprit et d'un coup sec, on dirait qu'on comprend ça. Avant ça, on pouvait ne pas le recevoir ou le nier. Maintenant que le Seigneur nous éclaire, on sait que c'est vrai. Et on sait qu'on était coupable, perdu et condamné à la perdition éternelle si on n'avait pas reçu la régénération ou la nouvelle naissance. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 4, verset 6, ça dit « Car le Dieu qui a dit que la lumière resplendisse au milieu des ténèbres est celui qui a resplendi dans nos cœurs pour faire briller la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu en la personne de Jésus-Christ. » Alors, si on a une vision du péché qui est faible ou incomplète ou imprécise, ça va amener toutes sortes d'erreurs dans notre marche chrétienne, dans notre compréhension des doctrines, etc. Alors, plus on va comprendre profondément les notions de péché, parce qu'il y a péché au singulier, le péché qui nous habite dans notre nature pécheresse. Il y a la notion des péchés, les péchés qu'on commet de toutes sortes de manières dans nos vies, soit dans nos pensées, soit dans nos paroles, soit dans nos actions, ou soit dans des omissions, ou même des fautes secrètes. Et il faut comprendre les conséquences théologiques de toutes ces choses-là. L'auteur que je me sers, c'est que je vous avais parlé la semaine dernière, J.C. Ryle, disait à son époque, ça c'était au 19e siècle, vers les fins des années 1800, début des années 1900, il disait qu'il y avait un grand flou théologique déjà à son époque, et que chacun, en Angleterre, parce que c'était un Anglais d'Angleterre, chacun croyait ce qui lui semblait bon. Quand on regarde la situation en Amérique du Nord, aujourd'hui en Europe, c'est un petit peu équivalent. Les gens ont une connaissance doctrinale assez faible. Et ça l'amène normalement d'autres erreurs dans la vie chrétienne. Alors, on pourrait commencer par essayer de définir clairement qu'est-ce que c'est le péché. La Bible elle-même, bien entendu, nous donne une définition du péché dans 1 Jean, chapitre 3, au verset 4. Ça dit « Quiconque pêche transgresse aussi la loi, car le péché est une transgression de la loi. » Alors, la loi, c'est le décalogue, les 10 commandements de Dieu. Si on les regarde un en arrière de l'autre et on regarde tout le contenu de ce que ça veut dire, parce que des fois, on les lit, mais on ne comprend pas jusqu'à quel point c'est profond, jusqu'à quel point c'est large, et jusqu'à quel point il y a des choses qui sont incluses dans les 10 commandements et qu'on a des manquements qui sont constants dans nos vies là-dessus. Alors, les Écritures elles-mêmes définissent qu'est-ce que c'est le péché. C'est une transgression de la loi. La loi dit quelque chose, transgresser, ça veut dire aller au-delà, faire le contraire de ce que la Bible dit. On transgresse. Donc, un péché, ça consiste donc à faire, à dire, à penser ou à imaginer quoi que ce soit qui n'est pas en parfaite harmonie avec la loi de Dieu. C'est large. Alors, est-ce que c'est nécessaire de vous rappeler qu'il y a deux types de péchés? ceux de commission, puis ceux de omission. Ceux de commission, bien sûr, c'est ça qu'on commette les jours, que ce soit dans nos pensées, que ce soit par la parole, que ce soit dans les actions. Mais il y a une autre sorte de péché que la Bible nous dit, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait. Alors, on va prendre l'exemple de Matthieu 25, versets 41-46, c'est Jésus-Christ lui-même qui parle. Il dit, ensuite, il parle du jugement. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, et allez au feu éternel, préparé au diable et à ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. » Voyez-vous, le péché, c'est pas d'avoir fait quelque chose. Le péché, c'est de ne pas avoir fait quelque chose. « J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim ou soif ou être étranger ou nu ou malade ou en prison et que nous t'avions point assisté? » Il leur répondra, « Je vous dis en vérité, qu'en tant que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, vous ne me les avez pas fait à moi-même. » Et il dit, « Et ils iront aux peines éternelles, mais les justes iront à la vie éternelle. » Voyez-vous, ils vont aller en enfer, pas parce qu'ils ont fait quelque chose, mais parce qu'ils n'ont pas fait quelque chose. Alors c'est important de comprendre la différence. Il y a une autre sorte de péché que des fois on ne reconnaît pas, c'est les péchés qu'on appelle les péchés d'ignorance. C'est-à-dire qu'on est, comme être humain, comme pécheur, on est capable de faire un péché, puis on ne se rend même pas compte que c'est un péché, notre conscience ne nous le reproche même pas. Mais est-ce que, à cause que la conscience ne nous le reproche pas, est-ce que ça veut dire que ce n'est pas un péché? C'est un péché pareil. Par exemple, dans Lévitique, au chapitre 5, versets 14 à 19. L'Éternel parla encore à Moïse en disant, « Lorsque quelqu'un commettra une prévarication et péchera par erreur, en retenant des choses consacrées à l'Éternel, il amènera à l'Éternel un sacrifice pour le délit, un bélier sans défaut, prix du troupeau, selon son estimation en cycle d'argent, selon le cycle du sanctuaire, en sacrifice pour le délit. Il restituera ce en quoi il aura péché à l'égard du sanctuaire, en y ajoutant le cinquième de sa valeur, et il le donnera au sacrificateur. Et le sacrificateur fera expiation pour cet homme avec le bélier du sacrifice pour le délit, et il lui sera pardonné. » Verset 17, « Et lorsque quelqu'un péchera en faisant sans le savoir, contre l'un des commandements de l'Éternel, ce qui ne doit pas se faire, il sera coupable et portera son iniquité. » Alors, c'est la preuve qu'on est, comme être humain pécheur, on est capable de commettre des péchés, puis on n'en est même pas conscient. Alors, c'est une autre forme de péché que parfois, il faut demander pardon, parfois, je dirais souvent, le plus souvent qu'on pense. Quand on confesse nos péchés, il faut confesser nos péchés dont on est conscient, mais il faut aussi savoir qu'on fait des péchés dont on n'est même pas conscient, et ceux-là aussi, il faut les confesser au Seigneur. Dans Luc 12, versets 47 et 48, ça dit, « Le serviteur qui a connu la volonté de son maître et qui ne s'est pas tenu prêt et n'a pas fait cette volonté sera battu de plusieurs coups. Mais celui qui ne l'a point connu et qui a fait ces choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. » Voyez-vous, il n'a pas connu la volonté, puis il va être puni pareil. Alors c'est la preuve qu'on est capable de commettre des péchés dont on n'est même pas conscient. Alors la Bible n'appuie pas l'idée erronée qu'un péché n'est pas un péché avant que nous le discernions comme tel et avant que nous en soyons conscients. Donc la Bible enseigne qu'on est capable de faire des péchés même si on c'est pas monté à notre conscience. Alors ça, souvent, c'est des choses que les chrétiens ont oubliées ou on a besoin de se faire rappeler. L'archevêque James Hosher, ça c'est un Irlandais, primat d'Irlande, donc à l'époque, il était comme l'évêque en responsable de l'Irlande, c'est quand même un gros territoire. Juste avant qu'il meure, voici ce qu'il a dit. Je trouve ça intéressant qu'un homme... Catholique. Pardon? Non, Usher, c'était pas un catholique. Non, 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 je suis sûr. Non, mais évêque, dans la Bible, le mot évêque, le mot pasteur, le mot ancien, c'est tout interchangeable. Le mot évêque, c'est pas, ça ne veut pas nécessairement dire catholique. On pourra revenir là-dessus. Qu'est-ce qu'il a dit avant de mourir? Il dit, « Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés et spécialement mes péchés d'omission. » Il était conscient qu'il avait fait des péchés de commission, c'est-à-dire qu'il a commis un péché, mais il était conscient aussi qu'il y avait plein de péchés que la Bible nous commande de faire, qu'il n'a pas fait. Et lui, avant de mourir, il dit « Pardonne-moi spécialement ceux-là » parce qu'il était conscient qu'il n'avait probablement beaucoup dans sa vie. Maintenant, l'origine et la source du péché. La Bible enseigne que la nature pécheresse de l'homme n'est pas le résultat d'une mauvaise éducation. On ne devient pas pécheur parce que notre mère ou notre père ou nos parents nous ont mal éduqués. Ce n'est pas l'effet de mauvais compagnons. Ça peut avoir joué un rôle, mais on ne devient pas pécheur parce qu'on a eu des mauvais compagnons. On devient pécheur à cause qu'on hérite de la nature pécheresse d'Adam et d'Ève quand ils ont tombé. On hérite de leur nature. On est bébé, on est déjà pécheur. On n'a pas commis beaucoup des choses très graves, mais on est encore des pécheurs. Les bébés, souvent on les appelle nos petits anges, on les appelle des petits innocents. Mais selon les Écritures, les bébés, ce n'est pas des petits innocents. Ils sont déjà coupables en naissant. Alors, une observation attentive, je ne sais pas si vous avez déjà essayé ça, l'observation attentive de jeunes enfants dans un parc. Ils ont juste 6 mois, 1 an, puis disons vous en mettez 2 dans le parc, puis vous mettez des jouets entre les deux. Et si il y en a un qui enlève le jouet de l'autre, il va prendre sa pelle, puis il est prêt à quasiment y arracher la tête. Alors, on voit que déjà, la nature pécheresse est déjà dans le cœur, même des très, très, très jeunes enfants, et même des nourrissons. Alors, c'est là qu'on voit qu'on ne peut pas dire de notre enfant, par exemple, « Mon fils a un bon cœur au fond. » Parce que le fond du cœur humain, c'est juste de la méchanceté. C'est ça qui fait qu'on est chrétien, c'est parce que Dieu nous a montré que notre cœur est méchant par-dessus tout et qu'on a besoin de sa grâce pour nous faire prendre conscience qu'on est coupable et qu'on s'en allait directement en enfer et que c'est lui qui nous a libérés en nous ouvrant l'intelligence à la compréhension de ces choses-là. Dans Romains, chapitre 5, verset 12, ça dit « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. » Qui ça, le seul homme? Adam. Et par le péché, la mort. De même, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Verset un petit peu difficile à comprendre parce que si je vous dis en 2016 que vous étiez en Adam et que vous avez péché en Adam, c'était un peu difficile à saisir parce que là, on se dit, ben ouais, mais comment je peux être responsable d'un péché? Je n'étais même pas là. Mais la Bible nous dit, car tous ont péché, et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Alors, dans Éphésiens, chapitre 2, verset 3, ça dit, « Parmi lesquels nous vivions tous autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Alors, avant d'être sauvés, aux yeux de Dieu, on est condamnés, on est des enfants de colère. Voyez-vous, Romains 8, 7 dit une chose difficile pour un inconverti. Dire ça à un inconverti, c'est toujours un petit peu, ça les dérange un peu. C'est normal un peu aussi. Parce que l'affection de la chair, c'est l'être humain non régénéré, une personne non sauvée. Ça dit, est inimitié contre Dieu, Romains 8, 7. Inimitié, ça veut dire qu'un être non régénéré, Dieu est son ennemi. Même si son cœur est par la voix et par la parole, il ne le reconnaîtra pas nécessairement, mais dans le fond de son cœur, Dieu le dérange, il voudra faire ce qu'il veut, et Dieu est son ennemi. Même si sont rares les hommes qui vont dire « Je reconnais que Dieu est mon ennemi », mais dans le fond, tout le comportement, toute la pensée, toutes les paroles indiquent que c'est véritablement ça qui se passe. Marc 7, versets 21-23. « Car du dedans, c'est-à-dire du cœur des hommes, sortent les mauvaises pensées, les adultères, les fornications, les meurtres, les larcins, la cupidité, les méchancetés, la fraude, l'impudicité, l'œil envieux, la médisance, la fierté, la folie. Tous ces vices sortent du dedans et souillent l'homme. » Alors, quand les Écritures nous regardent par le Saint-Esprit, puis que Dieu nous dit qui qu'on est véritablement, on est des pécheurs, même régénérés, même après qu'on est sauvés, on est encore des pécheurs. Maintenant, le péché, l'étendue du péché, faut avoir une conscience aussi jusqu'où ça va le péché dans nos vies. Le péché, ça pénètre toutes les parties et toutes les facultés de l'être humain. Le corps, parce que Dieu nous a donné un corps au moment où on est venu au monde, il était correct, mais avec le temps, on se nourrit mal, on ne fait pas d'exercice, toutes sortes de choses qui contribuent à ce qu'on peut prendre notre corps et on peut le détruire par notre mauvais comportement, par la fumée, la drogue, l'alcool, etc., etc. Alors, le péché va dans le corps, il va dans la compréhension des choses, il va dans les affections, il va dans la volonté, et il va même dans notre capacité de raisonner. Alors, le péché, il est tout partout dans l'être humain. Même la conscience est affectée et ne peut pas être complètement utilisée comme guide moral. Tu sais, souvent on dit, on a la conscience qui nous dit, il nous donne la différence entre le bien et le mal, mais la conscience ne peut pas complètement nous éclairer, elle nous éclaire en partie, mais on a absolument besoin des Écritures et de l'Esprit de Dieu pour compléter. Sans ça, même notre conscience peut être tordue jusqu'à un certain point. À force de commettre le péché, les Écritures nous disent que la conscience devient cautérisée. Si vous avez connu des bûcherons, là, quelqu'un qui bûche, là, il vient les mains tellement en corne qu'il n'y a plus de sensibilité. Ben, au point de vue de l'âme, quelqu'un qui fait du péché sans arrêt, il vient aussi que sa conscience est cautérisée. Elle est cautérisée dans le sens qu'il n'y a plus de sensibilité au péché. C'est ça que le péché finit par donner. Alors, la maladie du péché peut être cachée sous des couverts de politesse, de courtoisie, de bonne manière et même de décorum. Cependant, quand on regarde comment les gens se comportent, disons, en société, il y a de la politesse, les gens ont des bons rapports les uns avec les autres, mais c'est pas trop long que le vernis se tasse et que le naturel revient au galop, comme on dit. Dans Genèse 6, 5, le Seigneur nous avait dit un petit peu qui on était. « L'Éternel vit que la malice de l'homme était grande sur la terre et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que mauvaise en tout temps. » Pas trop encourageant. Hein? C'est en train de nous dire que quand on est des pécheurs, avant d'être régénérés, toutes nos pensées sont mauvaises en tout temps. En tout temps. Jérémie 17, verset 9, vous avez sûrement déjà entendu parler de ce verset-là. « Le cœur est trompeur par-dessus tout et désespérément malin. Qui le connaîtra? » Autrement dit, Dieu est en train de nous dire que notre méchanceté est tellement étendue et tellement profonde qu'on n'est même pas capable de comprendre jusqu'où ça va tout cela. Quand il dit « qui le connaîtra? », il dit que le cœur de l'homme est trompeur. En anglais, c'est « wicked », c'est « méchant ». Méchant par-dessus tout et désespérément malin. Désespérément, là. Puis il dit, qui le connaîtra, en voulant dire que ça va tellement loin qu'on n'est même pas capable de concevoir jusqu'où notre méchanceté peut aller. Isaïe, chapitre 1, verset 2 à 6. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille. Car l'Éternel parle. J'ai nourri des enfants et je les ai élevés, mais ils se sont rebellés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne, la crèche de son maître. Israël n'a point de connaissance, mon peuple n'a point d'intelligence. Ô nation pécheresse, peuple chargé d'iniquité, race de méchants, enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont détournés en arrière. Où vous frappez encore si vous continuez vos révoltes? Toute la tête est malade et tout le cœur languissant. De la plante du pied jusqu'à la tête, il n'y a rien de sain. Ce ne sont que blessures, meurtrissures et plaies vives qui n'ont point été pansées, ni bandées, ni adoucies avec l'huile. Il parle de son peuple d'Israël, puis malgré qu'ils ont eu d'innombrables bénédictions de l'Éternel, il s'était détourné de lui, et le Seigneur, il dit, j'ai essayé de vous corriger de toutes les manières possibles, il dit, c'est comme s'il était plein de poques, puis il dit, où je peux frapper encore? De la plante du pied jusqu'à la tête, tout est meurtrissure. Et là, on parle au peuple de Dieu, on parle d'un peuple de Dieu. Alors, le péché est universel et présent sur tous les continents, dans tous les pays, dans toutes les nations, chez tous les individus de la terre. Il n'y a pas un être humain qui n'est pas un pécheur. Le seul qui est une exception, c'est Jésus. Et il était pas seulement un homme, il était l'homme-Dieu. Alors, Romains 6, verset 14 nous dit, « Car le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous n'êtes point sous la loi, mais sous la grâce. » Après notre salut, le Seigneur nous dit que normalement le péché ne devrait pas dominer. Dominer, ça veut dire qu'il y a toujours la victoire. Il lâche pas bientôt. Mais quand on est chrétien, normalement, on est censé de mortifier le péché et d'avoir de plus en plus de victoire. Leader du péché. Le mot leader, ça veut dire... Le dictionnaire Robert définit le mot leader de la manière suivante. Caractéristique de ce qui est hideux. Laideur extrême. Je me souviens, une fois, on avait étudié le livre de Lévitique et il parlait que le péché, c'était semblable à la lèpre. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des images de lépreux. À un moment donné que j'avais étudié ça, on avait sorti des images sur Internet. C'est affreux. Des gens qui lui manquent la moitié de la joue. C'est vraiment affreux. Et les Écritures se servent de l'image de la lèpre pour nous parler de notre nature pécheresse. Aux yeux de Dieu, notre nature pécheresse est aussi laid que quand nous, on regarde la lèpre. La séduction est le côté trompeur du péché. Le côté trompeur et séducteur du péché, c'est que, comme être humain, on a une tendance à se laisser séduire par tout ce qui est péché. Ça nous attire encore. Ça nous attire comme un aimant. Et il faut être conscient de ce côté-là du péché. Les Écritures dans Hébreux chapitre 3, verset 13, nous dit « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, pendant qu'il est dit aujourd'hui, de peur que quelqu'un de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Si on laisse le péché prendre trop de place dans nos vies, si on laisse le péché, c'est sûr qu'éventuellement, ça va devenir... Il va nous maîtriser de plus en plus. J'ai pas le temps ce soir, mais je ne sais pas si vous avez chacun une copie de la confession de foi baptiste de Londres de 1689. C'est la confession de foi officielle de l'Église et de l'ensemble des Églises réformées baptistes du Québec et de Arbca américain, qui a 80 églises là-dedans. Et il y en a en Europe, il y en a un peu partout. C'est de la confession de foi qui date de 1689. C'est un nombre de pasteurs qui ont formulé ça, la confession de foi. C'est très solide. Et quand vous avez, au chapitre 6, vous avez un chapitre qui s'appelle « La chute de l'homme, le péché et son châtiment ». Voyez-vous, cinq paragraphes. Si vous l'avez une copie, si vous voulez vous remémorer un petit peu qu'est-ce que c'est le péché et comment c'est défini par les pasteurs réformés baptistes dans notre histoire, c'est important de reviser ça. Parce que plus on va comprendre comment le péché nous affecte, comment le péché... parce que la sanctification, c'est justement se débarrasser du péché. Fait que plus on va comprendre qu'est-ce qu'il est, plus on va être efficace pour l'enlever. Alors, si jamais vous avez cette confession de foi-là, je vous invite à lire le chapitre 6 qui parle du péché. Et si ça définit, et quand vous avez déjà lu cette confession de foi-là, vous savez qu'il donne un paragraphe, il donne une phrase, puis à côté, il y a un petit numéro. Là. Puis le petit numéro, lui, il réfère à un verset. Quand on lit ça, La meilleure façon de lire ça, c'est de pas lire ça trop vite. C'est pas un roman, ça. Lisez ça, et quand vous avez un numéro, allez voir le verset, lisez-le. Ça, c'est la meilleure façon d'étudier ça. Puis faites-le plus qu'une fois. Je suis toujours surpris de voir que des églises et des individus qui font partie d'une église réformée baptiste connaissent si peu leur confession de foi. C'est malheureux, parce qu'on se devrait de la connaître très bien. Plus on la connaît, plus mieux on va être des meilleurs chrétiens. Ça, c'est sûr et certain. C'est quand même pas si épais que ça. C'est juste de la réviser souvent et de prendre le temps d'aller voir les versets. Moi, je vous conseille de le faire parce que ça nous fortifie. Alors, je vois au moins quatre applications, on va y aller rapidement, quatre applications de la très, très, très brève étude qu'on a faite ce soir. Un antidote puissant contre une théologie floue et nébuleuse qui est commune de nos jours, qui dit un peu de Christ, un peu de grâce, un peu de foi. Une théologie aussi vague n'exerce pas de véritable influence sur la marche chrétienne quotidienne, ni ne donne la paix profonde de l'âme. Alors, il faut avoir une théologie solide, bien ancrée, qu'on connaît bien et qui change nos vies, qui transforme nos vies. La deuxième application, un antidote efficace contre la théologie libérale et moderniste. On a parlé un petit peu la semaine dernière, la théologie libérale. Les libéraux, c'est ceux qui prennent les Écritures et que partout où il y a des choses extraordinaires, comme par exemple des miracles, c'était pas un miracle, ça, c'était... Alors, faut faire attention, parce que ça court de nos jours, dans les milieux américains et même dans nos milieux canadiens, québécois, ça court de nos jours et on a intérêt à bien connaître nos Écritures pour pas se laisser emporter par ces affaires-là. Un antidote destructeur des fausses doctrines du perfectionnisme. On vous a parlé la semaine dernière du « sinless perfection ». Autrement dit, il y a certains chrétiens qui affirment que c'est possible pour un chrétien de ne plus pécher. C'est complètement faux. Mais c'est enseigné quand même partout. Aux États-Unis, en Europe, un peu partout. Il y a beaucoup de livres quand vous allez dans les librairies chrétiennes. Il faut faire attention. Normalement, faites attention quand vous achetez des livres, soit sur Internet ou soit dans une librairie chrétienne, de vous acheter de bons livres, parce qu'il y a pas mal de scrap qui court de nos jours, et on a intérêt des fois à consulter le pasteur, ou qu'est-ce que vous en pensez de celui-là, parce que j'en ai connu des gens qui se sont laissés influencer et égarer par des mauvaises lectures. Alors, je vous dirais, je vous rappelle le fameux verset hébreu, chapitre 12, verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » La sanctification, c'est pas quelque chose, « Ah ben, si ça me tente, j'embarque là-dedans, puis si ça me tente pas, j'embarque pas. » C'est que si tu te sanctifies pas, la Bible dit que tu ne lui appartiens pas. Parce que Dieu nous a sauvés pour qu'on se sanctifie, pour qu'on devienne de plus en plus semblable à Christ. Et si vous connaissez quand on relie nos quatre évangiles, être semblable à Christ, c'est un gros contrat, comme on dit. Alors, on va terminer là-dessus.